nous nous retrouvons pour une série
consacrée. Nous attachons à quatre faits marquants de votre vie.
Passer une demi-heure ensemble.
Focus braque aujourd'hui son projecteur.
Focus. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
On retrouve Paul Caro, correspondant de l'Académie des sciences, qui, sur Canal Académie, se fait journaliste pour interviewer l'un de ses confrères de l'Académie des sciences.
Jacques Lucas, vous venez d'être élu à l'Académie des sciences. Vous êtes un spécialiste de la chimie du solide, connu pour ses études sur les vers minéraux. Vous avez commencé votre carrière par l'étude des halogénures, chlorures et fluorures d'uranium. Comment en êtes-vous passé à l'étude des vers ?
À vrai dire, je suis passé à l'étude des vers par un accident heureux, un accident qui n'était pas tout à fait prévu. À l'époque, effectivement, il y avait des nécessités de rechercher des matériaux qui étaient candidats à la fabrication de micro-lasers, c'est-à-dire des matériaux très riches en terres rares. Nous travaillions à l'époque sur des fluorozirconates cristallisés. Et un jour, en ouvrant un tube scellé qui nous sert à fabriquer ces matériaux cristallisés, nous sommes tombés sur un cristal énorme, on va dire trop gros pour pouvoir être honnête. Et en réalité, ces cristaux n'étaient pas du tout des cristaux, c'était des morceaux de verre. Donc on a tout de suite détecté une sorte de terrain inconnu dans la chimie des fluorures, à savoir... Il doit exister, puisque nous venons de les voir, disons, des verres basés sur des combinaisons de fluorures.
Jusqu'à présent, on ne connaissait que les verres de silice, en gros, à cette époque-là.
Voilà, tout à fait. Le monde du verre, d'ailleurs, est encore dominé, largement dominé par les verres de silice. Et les verres de fluorure, à l'époque, donc, sont apparus comme des curiosités de laboratoire qui, à l'époque, nous ont intéressés essentiellement parce qu'on découvrait là un nouvel état de la matière. Ceci dit, on a aussi flairé, puisque nous avions un peu naturellement, nous sommes toujours intéressés aux propriétés optiques des matériaux, on s'est demandé si ces matériaux pouvaient avoir des propriétés optiques tout à fait particulières. Et on a entre autres étudié avec un collègue de Rennes le dopage de ces verres par des terres rares et leurs propriétés de fluorescence. Et on a publié, c'était en 75, vous voyez, ça fait 30 ans.
C'était déjà une époque assez éloignée. Mais bon, on s'est rendu compte depuis que ces propriétés optiques avaient une grande importance industrielle, pratique, technologique. Comment vous avez procédé pour développer ces propriétés ?
Alors là aussi, on doit, disons, le succès international incontesté des verres de fluorure, on le doit à la communauté extérieure et en particulier au monde des télécoms. Il se trouve que la première publication qu'on a faite a été examinée par des gens qui s'occupent de propagation de lumière dans des verres, qui ont tout de suite détecté que les verres de fluorure étaient caractérisés par une bande passante extrêmement large, c'est-à-dire par des potentialités d'ultra-transparence, on va dire 10 à 1000 fois supérieures à la silice. C'est pas nous qui avons détecté.
Mais pour quel domaine de longueur d'onde c'était ?
Alors, bon, quand on trace la courbe qu'on appelle la courbe en V, c'est-à-dire là où on risque d'avoir des pertes optiques minimales, on s'est aperçu que dans le cas des verres de fluorure, on va dire le minimum de perte, c'est-à-dire le maximum de transmission, se situe aux environs de 3 microns.
C'est-à-dire dans l'infrarouge.
Oui, c'est dans l'infrarouge.
Oui. Et comment pratiquement ces verres sont-ils mis en forme pour leur exploitation ?
Alors, disons, l'aventure industrielle donc de l'époque, elle a été initiée par les grands opérateurs télécoms, on va dire même les très grands, Alcatel compris, mais les grands opérateurs internationaux. Et tout de suite, on s'est aperçu que ce qui était vrai pour la silice, c'est-à-dire la fabrication des verres, des fibres en particulier, par des méthodes de CVD, qu'on appelle donc de Chemical Vapor Deposition, ne marcherait pas pour les verres de fluorure. Là aussi, il a fallu, disons, inventer des méthodes de fabrication, inventer des méthodes de mise en forme, qui, malheureusement, n'ont pas permis, je dois dire de façon honnête, on n'a pas réussi à battre la silice. On a fait aussi bien que la silice, mais on n'a pas réussi à la battre. Et cette aventure-là est arrivée au moment où les télécoms ont subi de plein fouet un crack, comme on le sait, aux alentours de fin du 20e, vers l'année 2000. Et du coup, cette aventure des verres ultra-transparents fluorés, elle est devenue un peu démodée, pour être très honnête. Alors, je dois dire que tout le travail qu'on a fait sur ces verres passifs, parce que les verres ne servaient qu'à faire passer de la lumière, donc avaient des propriétés passives, On l'a par contre totalement, complètement réutilisé, tous ces savoir-faire, pour fabriquer ce qui a été ce qu'on appelle des amplificateurs optiques et qui nécessitent aussi la fabrication de fibres, mais cette fois-ci dopés à cœur et en particulier avec des terres rares. Et le besoin d'amplificateurs optiques est une nécessité absolue, puisque quand on transmet un signal optique dans une fibre de silice, il faut à peu près tous les 60 km le régénérer, le réamplifier. Et pour ça, ce sont nos collègues de Southampton qui ont lancé ce concept de dire si on utilisait des fibres dopées par des terres rares, et en particulier l'erbium. L'erbium émet de la lumière à 1,55 microns, exactement dans le puits, dans le trou de l'ultra-transparence de la silice. Là, ça a été le deuxième un peu miracle. Et je dois dire que la technologie donc, qui avait été payée pour les fibres passives, elle a été immédiatement utilisée pour les fibres actives. Et il existe actuellement au Japon encore une partie du réseau japonais qui est équipée en fibres fluorées. Cette fois-ci, non pas dopée à l'erbium, mais dopée au praséodyme. Tout simplement parce que le réseau japonais est équipé pour partie à 1 micron 3. Non pas 1 micron 5, mais 1 micron 3. Tout simplement parce que la silice a à cette longueur d'onde un minimum de dispersion. Donc il existe encore un marché, des fibres fluorées dopées au praséodyme pour des amplificateurs optiques.
Donc vous avez beaucoup utilisé les terres rares comme dopants à cause de leurs propriétés optiques essentiellement.
Voilà, tout à fait. On veut dire le mariage entre les terres rares et les fluorées s'est trouvé extrêmement fructueux. Et la dernière aventure en date qui est en train de se réaliser en ce moment aux États-Unis, je crois que c'est au Lawrence Livermore, ce sont ce qu'on appelle les laser cooling, c'est-à-dire on essaye de produire du froid en irradiant un verre dopé à l'ytterbium, un verre fluoré dopé à l'ytterbium, qui va fluorescer, mais qui pour fluorescer a besoin de prendre de l'énergie quelque part, il va le chercher dans le réseau. Ça veut dire qu'il va chercher de l'énergie dans les modes de vibration, et ce faisant, évidemment, il refroidit le cristal. Enfin, pas le cristal, je dis une erreur, le verre. Donc actuellement, je viens de lire un article la semaine dernière où des chercheurs donc, de cet institut ont réussi à refroidir un morceau de verre fluoré dopé ytterbium et irradié donc, par une longueur d'onde appropriée. Ils ont réussi à le refroidir jusqu'à moins 110 degrés centigrades. Donc c'est une véritable prouesse. Donc là, il y a un nouvel espoir.
Alors quelle est la nature de la
pompe? C'est un laser.
Mais un laser de quel...
C'est un laser qui doit pomper exactement sous, on va dire, le niveau d'énergie de l'ytterbium, oui. En espérant que l'autre partie de l'énergie va être prise sur le réseau, de telle sorte que l'addition de énergie prise sur le réseau plus énergie réémise va contribuer à produire du froid. Petit peu ce qu'on appelle l'inverse de la relaxation de phonon. C'est-à-dire, ce qui se passe habituellement, c'est on émet de la lumière et en même temps du chaud. Oui. Alors, c'est un cas unique. Si j'en parle, c'est que ce système-là ne fonctionne actuellement qu'avec la combinaison ytterbium et verre fluoré. C'est tout à fait unique. Donc c'est un petit marché qui vient de s'ouvrir.
Bien sûr. Mais quel est l'intérêt de fabriquer des verres transparents dans l'infrarouge pour des applications comme la vision nocturne, par exemple?
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un peu une autre aventure. Je veux dire, ça fait partie de la deuxième chance que j'ai eue dans ma vie scientifique. Bon, il a été initié par, les gens qui nous ont financés pendant toute notre aventure dans ce domaine des verres, c'est-à-dire la DGA, la Délégation Générale à l'Armement, qui souhaitait avoir des verres qui transmettent relativement loin dans l'infrarouge, et ceci pour pouvoir regarder la chaleur, c'est-à-dire faire de ce qu'on appelle de l'imagerie thermique. Et il se trouve que l'imagerie thermique se fait aux alentours de 10 microns, puisque à température ordinaire, tous les individus émettent de la lumière à peu près 60 watts, et la longueur d'onde, disons, d'émission se situe autour de 10 microns. Évidemment, pour ça, il faut créer des caméras infrarouges relativement bas coût pour qu'un jour tout le monde puisse les utiliser. Et pour créer des caméras infrarouges, il faut les équiper avec des optiques. Donc, il y avait, disons, depuis il y a 10 ans, quand on a démarré cette aventure, il n'y avait pratiquement pas de verre, ayant ces caractéristiques de transmission autour de 10 microns. Et c'est ce que nous avons, c'est l'opération que nous avons lancée avec un relatif succès il y a une dizaine d'années maintenant.
Mais on peut faire de l'optique, on peut faire des lentilles, on peut faire des miroirs même.
Tout à fait, on peut faire des miroirs. Le grand succès, ça a été de réaliser des lentilles et surtout des lentilles moulées. Les clients militaires sont effectivement peu regardant ou était peu regardant sur les prix, mais quand il s'est agi de passer dans le civil, on nous a dit, est-ce que vous êtes capable de faire des lentilles moulées, c'est-à-dire sans être obligé de passer par une étape de coupage, de sciage, de polissage? Et c'est ce que nous avons réalisé. Et ça a tellement bien marché qu'on a donc créé une société qui s'appelle Vertex, qui maintenant a été revendue d'ailleurs à un grand opérateur de matériaux infrarouges qui s'appelle Umicore, qui était initialement, on ne va pas dire notre concurrent, mais qui était le producteur de germanium. Le germanium est de tout temps, depuis le début de l'infrarouge, est le matériau qui sert à fabriquer des lentilles, mais qui est cher et qu'il faut tourner à la pointe diamant, dont la mise en œuvre est très chère. Donc le vrai succès qu'on a eu donc, dans les, on va dire, les 15 dernières années, et en particulier depuis la création de la société en 1996, ça a été de développer ces méthodes de moulage qui font qu'actuellement, par exemple, on est capable de mouler des toutes petites lentilles de la pièce d'une taille d'un euro qui sont montées sur des caméras qui vont servir, et qui servent d'ailleurs, il y en a à peu près 5-6 000 actuellement prototypes, qui équipent des voitures américaines pour nous aider, nous assister dans la conduite de nuit ou par temps de brouillard. Effectivement, ces caméras permettent de voir la chaleur, c'est-à-dire permettent de voir des objets chauds. Quelqu'un qui traverse à 400-500 mètres devant la voiture est très, très facilement repéré. Alors évidemment, la contrainte, elle est claire. Une option voiture caméra infrarouge, il ne faut pas que ça soit supérieur à 1000 euros. Et 1000 euros, ça veut dire que nous, la lentille, elle ne doit pas coûter plus de 20 euros. Donc il a fallu développer toute une technique de moulage et ça a été fait dans le cadre de la société.
Quelles sont les applications des fibres guides d'ondes?
Alors ça procède un peu de la même stratégie. Comment peut-on mettre en forme les verres donc, qui s'appellent les verres de chalcogénure? Eh bien, une des façons de les faire en forme, c'est de les fibrer, c'est d'en faire des cheveux. Et si on injecte de la lumière infrarouge dans ses cheveux, on sait qu'une partie de l'énergie infrarouge se promène sur la peau de la fibre, sur la surface de la fibre. Si on vient donc interrompre la propagation de cette lumière, eh bien cette lumière va être interrompue par les modes de vibration de l'espèce qui touche la fibre, ce qui permettra sur un détecteur en bout de fibre d'avoir la carte d'identité de la molécule qui vient d'être en contact
avec l'absorption infrarouge du rayonnement.
Tout à fait.
Envoyé.
Alors ça nous a permis en particulier de travailler avec des médecins, d'aller analyser in situ par exemple, voir si un tissu du foie par exemple était tumoral ou pas. On a étudié la culture de bactéries in situ. On a également étudié un truc très breton, une technique très breton, la fermentation du jus de pomme en alcool en suivant la signature du glucose et celle de l'alcool ensemble.
Donc vous êtes en train de passer de la chimie du solide à la chimie biologique, à toute une série de nouvelles aventures dans des domaines apparemment très éloignés des fluorures de zirconium et d'uranium de vos débuts.
Tout à fait. Alors là, c'est le parcours, disons, pluridisciplinaire dans toute sa splendeur. On pense que d'ailleurs, il va falloir un peu qu'on arrête et qu'on est arrivé là dans un moment où il va falloir trouver un opérateur industriel qui va s'intéresser à ce qu'on appelle ces senseurs optiques. Parce qu'on a vraiment démontré dans des tas de domaines, en biochimie, en biologie, en médecine, en agroalimentaire, en chimie, que le système fonctionnait. Et maintenant, il faut que ce soit un opérateur industriel qui s'en occupe parce que le labo va multiplier ses expériences, mais ça ne sera pas bénéfique.
On peut multiplier les démonstrations, mais il faut que ça passe dans le domaine public.
Il faut qu'on passe à autre chose.
À travers un effort de développement dont on sait qu'il coûte 10 fois plus cher que la recherche.
Exactement. Alors, on est aidé par la région Bretagne, d'ailleurs, pour ça. Mais on attend l'industriel français de l'optique qui sera capable d'investir, parce qu'évidemment, ces domaines-là demandent un investissement sans retour immédiat. Et malheureusement, l'industrie de l'engineering optique en France est très, très pauvre. Et en particulier,
espérons que le responsable écoute Canal Academy.
<It's>
Jacques Lucas, je vous remercie.
Je vous en prie.